Soit, aimable fille, reprit Ivanhoé. Il y aurait de l'ingratitude à transgresser tes ordres. Mais un seul mot sur le sort du pauvre Gurs, et je cesserai de te questionner.
Il m'est pénible de vous dire, sire chevalier, répondit la juive, qu'il a été arrêté par ordre de Cédric.
En voyant le chagrin que cette révélation causait à Wilfrid, elle ajouta aussitôt
« Mais l'intendant Oswald m'a dit que, si une nouvelle offense ne venait pas raviver le ressentiment de son maître contre lui, il était certain que Cédric pardonnerait à Gurs, serf fidèle, qui jouissait d'une grande faveur, et qui n'avait commis cette erreur que par l'amour qu'il portait au fils de Cédric. Il a dit en outre que lui et ses camarades, et notamment Wamba, le bouffon, était résolu à laisser Gurs s'évader en route dans le cas où la colère de Cédric contre lui ne se calmerait pas.
Plaise à Dieu qu'ils persistent dans leur dessein, s'écria Ivanhoé. Mais il semble que je sois destiné à porter malheur à tous ceux qui m'ont témoigné de l'affection. Je suis honoré et distingué par mon roi, et tu vois que celui de ses frères qui lui doit le plus lève la main pour saisir sa couronne. Mon attachement a porté malheur à la plus accomplie des femmes. Et maintenant mon père, dans un accès de colère, va tuer ce pauvre cerf pour le punir de son affection et de son dévouement à ma personne. Tu vois, jeune fille, à quel être infortuné tu prodigues des soins? Sois prudente, et laisse-moi partir avant que le malheur qui s'attache à mes pas, comme une meute acharnée, s'acharne également après toi.
Non, dit Rebecca. Votre faiblesse et votre souffrance, sire chevalier, vous font méconnaître les intentions du ciel. Vous avez été rendu à votre pays au moment où il a le plus besoin du soutien d'un bras fort et d'un cœur honnête. Et vous avez humilié l'orgueil de vos ennemis et de ceux de votre roi quand leur arrogance était à son comble. Et pour guérir vos blessures, ne voyez-vous pas que le ciel vous a envoyé une main secourable et habile dans l'art des pansements, quoiqu'il l'ait choisi parmi une race méprisée de tout le monde? Or donc, ayez bon courage et soyez convaincus que vous êtes conservés pour faire quelques miracles que votre bras accomplira devant tout ce peuple. Et quand vous aurez pris la médecine que vous remettra Ruben, reposez en paix, afin d'être en état de supporter le voyage de demain. » Ivanhoé se laissa convaincre par les raisonnements de Rebecca et obéit à ses recommandations. La boisson que Ruben lui présenta possédait des propriétés sédatives et narcotiques. Elle procura au malade un sommeil profond et calme. Le lendemain matin, son charmant docteur le trouva complètement débarrassé de toute espèce de fièvre et en état de braver les fatigues d'un voyage. On le plaça dans la même litière qu'il avait ramenée du tournoi, et toutes les précautions furent prises pour qu'il voyageât commodément. Il n'y eut qu'un seul point sur lequel les supplications mêmes de Rebecca ne purent obtenir les soins qu'exigeait la position du voyageur blessé. Isaac, comme le riche voyageur de la 10e satire de Juvénal, avait toujours devant les yeux la crainte d'être dépouillé, parce qu'il savait qu'il serait également considéré comme bon gibier, soit par le seigneur normand allant en maraude, soit par l'anglo-saxon. Il voyagea donc à grande journée, ne fit que de courtes haltes et des repas encore plus courts. De sorte qu'il dépassa Cédric et Asselstan, qu'il avait devancé de quelques heures, mais qui avait été retardé par le repas prolongé qu'ils avaient fait au couvent de Saint-Wissold. Cependant, telle était la vertu du baume de Myriam, ou bien telle était la force de constitution d'Ivanhoé, qu'il n'éprouva de cette course précipitée aucun des inconvénients que son aimable médecin avait redouté. À un autre point de vue, toutefois, la précipitation du juif dans ce voyage fut plus excessive que sage. La rapidité avec laquelle il voulait voyager amena plusieurs querelles entre lui et l'escorte qu'il avait louée pour l'accompagner comme sauvegarde. Ces hommes étaient des Saxons et ils n'étaient nullement exempts de cet amour traditionnel pour le bien-être et la bonne chère qui distingue leur nation. À l'opposé de la situation de Shylock, ils avaient accepté cet emploi dans l'espoir d'exploiter le juif opulent et ils furent très vexés en se trouvant trompés dans leurs calculs par la rapidité que le juif voulut mettre dans son voyage. Ils se plaignirent aussi du risque que couraient leurs chevaux par suite de cette marche forcée. Enfin, il s'éleva entre Isaac et son escorte une dispute fort vive sur la quantité de vin et d'ale qu'on devait allouer à chaque repas. Aussi, lorsque l'alarme fut donnée et que le danger qu'Isaac craignait tant fut sur le point de fondre sur lui, il se vit abandonné par les mercenaires mécontents sur la protection desquels il avait compté, sans employer toutefois les moyens nécessaires pour s'assurer leur attachement. C'est dans cet état déplorable que le juif, sa fille et le malade blessé furent trouvés par Cédric, et ainsi que nous l'avons déjà raconté, qu'ils tombèrent bientôt après entre les mains de De Bracy et de ses confédérés. On ne fit d'abord que peu d'attention à la litière, et elle aurait pu être laissée sur le chemin. Sans la curiosité de De Bracy qui l'examina, pensant qu'elle pouvait contenir l'objet de son expédition, car Lady Rowena avait gardé son voile. Mais l'étonnement de De Bracy fut au comble quand il s'aperçut que la litière renfermait un homme blessé qui, s'imaginant être tombé au pouvoir des outlaws saxons, près desquels son nom serait une sauvegarde pour lui et ses amis, avoua franchement qu'il était Wilfrid d'Ivanhoe. Les idées d'honneur chevaleresque, qui n'abandonnaient jamais entièrement De Bracy au milieu de ses dérèglements et de sa légèreté, l'empêchèrent de faire aucun mal au chevalier dans sa déplorable position et lui interdirent également de divulguer ce secret à Front de Bœuf, qui n'aurait eu aucun scrupule de mettre à mort en toute occasion son rival, prétendant au fief d'Ivanhoe. D'un autre côté, mettre en liberté un prétendant préféré au cœur de Lady Rowena, ce que les événements du tournoi et l'exil de Wilfrid de la maison paternelle avaient rendu notoire, c'était là un effort de générosité au-dessus des forces de De Bracy. Il ne sut trouver qu'un moyen terme entre le bien et le mal, et il ordonna à deux de ses écuyers de rester auprès de la litière et de ne permettre à personne de s'en approcher. Si on les questionnait, leur maître leur avait ordonné de dire que la litière appartenait à Lady Rowena et qu'elle était momentanément occupée par un de leurs camarades blessés dans l'escarmouche. En arrivant à Torquilstone, tandis que le chevalier du temple et le maître du château étaient absorbés chacun dans ses propres projets, l'un convoitant les trésors du juif et l'autre sa fille, les écuyers de De Bracy portèrent Ivanhoe, qui passait toujours pour un camarade blessé, dans un appartement écarté. Cette explication fut celle qu'ils donnèrent à Front de Bœuf lorsqu'il leur demanda pourquoi ils ne s'étaient pas rendus sur les créneaux au premier bruit d'alarme. « Un camarade blessé ? » s'écria-t-il étonné et irrité. « Il n'est pas étonnant que des manants et des yéomènes deviennent assez présomptueux pour assiéger nos châteaux et que les paysans et les porchers envoient des cartels au seigneur, puisque des hommes d'armes sont devenus des gardes malades et que les francs compagnons se tiennent près du chevet de ceux qui meurent au moment où le château va être envahi. « Au créneau, fainéants et vilains !» s'écria-t-il en élevant sa voix de stentor, de manière à faire retentir les voûtes. « Au créneau, ou je vous briserai les os avec ce gourdin !» Les hommes répondirent en rechignant qu'ils ne demandaient pas mieux que d'aller au créneau, pourvu que Front de Bœuf voulut les excuser auprès de leur maître, qu'il leur avait commandé de soigner le moribond. « Le moribond, misérable !» ajouta le baron. « Je vous promets que nous serons tous moribonds si nous ne nous défendons pas courageusement jusqu'à la fin. Mais je vais relever la garde de votre scélérat de camarade. Ici, Urfried, sorcière, démon saxon, ne m'entends-tu pas ? Va soigner cet homme alité, puisqu'il lui faut une nourrice, tandis que ces coquins se serviront de leurs armes. Voici des arbalètes, camarades, avec leurs vindas et leurs virtons. Montez à la barbacane et ayez soin que chaque virton s'enfonce dans la cervelle d'un saxon. » Les deux écuyers, comme la plupart des hommes de leur espèce, aimaient les hasards de la guerre et détestaient l'inaction. Ils se rendirent joyeusement à ce poste périlleux, ainsi qu'ils en avaient reçu l'ordre, de sorte que la garde d'Ivanhoe fut confiée à Urfried ou Ulrika. Mais celle-ci, dont la tête bouillonnait au souvenir des injures qu'elle avait subies et dont le cœur ne rêvait que vengeance, se laissa facilement persuader qu'elle ferait bien de céder à Rebecca le soin de son malade.